France, le surréalisme n'est pas plus une réaction contre l'art bourgeois que, par exemple, un incendie n'est une réaction contre une saucière. J'ignore la véritable raison que j'ai de peindre, tout autant que j'ignore la raison qu'il y a de vivre et de mourir.
Cette voix et cet accent rocailleux appartiennent à René Magritte. Le 2 mars dernier, un de ses tableaux, extrait de la série « L'Empire des Lumières », a été vendu à Londres pour la somme colossale de 71 millions d'euros. Un record pour l'artiste belge qui, de son vivant, se disait guère intéressé par les prix extravagants qu'atteignait déjà ses toiles.
Il paraît que certains tableaux se vendent 1 million. Il paraît.
Vous êtes heureux de cela?
Non, ça m'est tout à fait indifférent.
Cet événement qui a agité le marché de l'art me donne l'occasion d'évoquer, à l'aide de nombreux documents sonores, quelques fragments de la vie de Magritte, aujourd'hui connue et reconnue dans le monde entier. Vous entendrez René Magritte s'exprimer sur son travail et son parcours artistique. La parole sera également donnée à son épouse Georgette, à Louis Kuttner, l'un de ses plus fidèles compagnons de route, ainsi qu'à Salvador Dali, qui admirait beaucoup le peintre surréaliste dont il fut un proche dans les années 20. Originaire de Lessines, René Magritte grandit avec ses deux jeunes frères dans une famille bourgeoise à Châtelet, près de Charleroi, au début du XXe siècle. Les trois frères Magritte sont des sales gamins qui terrorisent, le mot n'est pas trop fort, les habitants de la commune. Auteur d'une biographie sur Magritte, Jacques Roisin a enquêté plus particulièrement sur l'enfance du peintre. Pendant 10 ans, il a recueilli les témoignages de ceux qui ont connu la famille Magritte lorsque René était enfant et adolescent. Une enquête qui révèle la face sombre du personnage.
Le tout premier contact avec une personne âgée de Châtelet, ça a été de refuser de nous parler de cette bande de sales gamins.
Jacques Roisin.
Et de dire que c'était des gens dont le passage avait tout à fait marqué, impressionné la population déjà à l'époque, donc bien sûr, hein, quand Magritte était enfant et puis jeune adolescent, que ça avait tout à fait marqué la population, tellement il faisait des phrases que les autres ne faisaient pas. Et elle m'a dit, dès notre premier contact, c'était sur le pas de sa porte, et elle ne voulait pas que je rentre parce qu'elle trouvait que Magritte ne méritait pas qu'on s'intéresse à lui. Elle m'a dit que d'ailleurs, les Magritte avaient été surnommés cauchis, c'est-à-dire des possédés du diable, tellement ils en avaient fait voir à la population de Châtelet. C'était un farceur, mais un farceur assez cruel, puisque, bon, il a plumé des poulaillers entiers, il a eu des actes, disons, assez sadiques avec des animaux, et il a aussi pris en grippe les gens qui travaillaient au cinéma, alors qu'il adorait le cinéma, quoi. Et d'ailleurs, un jour, les Magritte ont attendu le pianiste à la sortie du cinéma, et du haut d'un pont qui était à côté du cinéma, là au bout de la rue, ils ont jeté sur le pianiste tout un seau d'excréments que, paraît-il, ils avaient préparé pendant une semaine.
La mère du jeune René se suicide en 1912. Les Magritte quittent Châtelet et emménagent à Charleroi l'année suivante. C'est à cette époque que René rencontre Georgette Berger, fille d'un boucher de Marcinelle. Georgette se souvient.
J'ai connu mon mari à Charleroi, nous sommes tous les deux de Charleroi. Et moi j'avais 12 ans et lui avait quelques années en plus. Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la foire de Charleroi.
Georgette Magritte.
Mais alors est arrivée la guerre de 14-18. Lui est venu à Bruxelles, moi je suis restée à Charleroi. On s'est donc perdu de vue. Et en 1920, nous nous sommes rencontrés par hasard au jardin botanique. Alors on ne s'est plus quittés.
Mais vous vous étiez rencontrés dans un carrousel salon.
Ah oui, un carrousel salon. Et ça n'existe plus actuellement depuis longtemps. Ah, je ne sais pas. C'était un carrousel comme tous les carrousels qu'on voit sur les foires. Mais il était sous un chapiteau. Il y avait des grandes tentes, comme dans un cirque, enfin. Alors c'était très pratique quand il pleuvait, on pouvait se promener là-dedans et on pouvait faire des tours de moulin comme on voulait, bien entendu, en payant.
C'est presque sur les chevaux de bois que vous avez connu
René. C'était les chevaux de bois, oui, c'était ça. Et puis, entre-temps, on se promenait autour du carrousel et lui venait avec ses deux frères. Et moi, j'étais là avec une amie qui habitait dans les environs.
Et quand vous l'avez rencontré au jardin botanique plusieurs années plus tard...
Mais alors, il a dit, oh, comment vas-tu que je suis content de te voir. Mais, et puis alors, évidemment, tout de suite, il est venu. J'ai travaillé un moment à la coopérative artistique. Et tout de suite, le soir, il m'attendait à la sortie, comme ça. On s'est fiancés, puis après son service militaire, on s'est mariés. Et on ne s'est jamais quittés,
Mais qu'est-ce qui vous plaisait en lui à cette époque-là?
Vous savez, moi je crois que c'est la destinée, on se plaît, on s'accorde bien, et puis voilà, et puis il était très amoureux de moi.
Il l'a toujours été.
Je pense.
Avant de se marier avec Georgette, son amour de jeunesse, René Magritte suit les cours de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, à partir de 1915.
Le cours que j'ai suivi d'abord était un cours de dessin donné par un vieux monsieur, très sérieux, un Van Damme, je ne sais pas si on se souvient de ce nom.
René Magritte.
Et là, j'ai appris à dessiner, ce qui me paraît extrêmement important pour un peintre. Apprendre à dessiner est absolument indispensable, autant que pour un écrivain, apprendre la grammaire, par exemple.
Est-ce que c'était un enseignement de qualité?
Ah oui, c'était un enseignement très sérieux, où il ne s'agissait que d'apprendre à dessiner. Alors, avec ce cours-là, il y avait ceux de littérature donné par Ecott, et puis... des cours d'anatomie, de perspective, enfin tout ce qu'un peintre doit un peu connaître.
Nous sommes en 1921. René Magritte, désormais marié, travaille comme dessinateur dans une fabrique de papier peint à Arun. En marge de cette activité professionnelle purement alimentaire, Magritte peint de plus en plus. Par des influences venues notamment d'Italie.
Je crois que Pierre Bourgeois vous a montré un jour des œuvres futuristes qui vous ont marqué très fort.
Oui, en effet, c'était après mes cours de l'Académie que j'ai rencontré Pierre Bourgeois et il m'a montré un tableau des reproductions de peintures futuristes qui était pour moi tout à fait inconnu et ça m'a fait énormément d'impression.
Un autre choc, vous le devez, je crois, à cet étonnant personnage qui est Marcel Lecomte. Marcel Lecomte est venu un jour vous montrer une œuvre de Quirico, non?
Ah oui, là, vraiment, la rencontre a été plus grande et plus importante qu'avec les futuristes parce que les futuristes s'occupaient, en somme, de rechercher une manière originale de peindre. Alors que Chirico ne s'inquiétait pas d'une manière de peindre, mais de ce qu'il faut peindre, ce qui est très différent.
C'était le chant d'amour, ce fameux.
C'était le chant d'amour, en effet, un très beau tableau.
Vraiment, Chirico vous a inspiré à ce moment-là à tourner une sorte de commutateur et à déclencher quelque chose.
Oui, il y a eu une rencontre exceptionnel. En fait.
Et alors, je crois que vous vous êtes mis à peindre à tour de bras à ce moment-là.
Ah, j'ai peint, oui, mais je ne pouvais pas peindre comme Chirico, ou Quirico plutôt. Je cherchais quelque chose à peindre, n'est-ce pas, à l'exemple de Chirico, mais il ne fallait pas peindre ce que Quirico peignait.
Magritte prend goût pour la provocation. Avec son ami Édouard Messens, qu'il a rencontré lors de son service militaire, il participe à des actions pas très éloignées des mauvais tours qu'il jouait aux habitants de Châtelet quand il était enfant. C'est le point de départ d'un mouvement subversif qui va aboutir à la naissance du groupe surréaliste en Belgique. Christian Bussy, auteur d'une anthologie sur le surréalisme belge, raconte.
Au départ, il y avait, si vous voulez, Magritte et Maisens, qui faisaient des attitudes, qui avaient des attitudes provocatrices aussi, mais dans l'esprit dada plutôt.
Christian Bussy.
Avec Pierre Bourgeois, ils allaient dans des endroits publics et ils se conduisaient mal pour faire exploser la soirée qui avait lieu, que ce soit à l'opéra ou ailleurs.
C'était au fond une attitude anti-art.
Anti-art, oui. Mais gratuite, enfin, sans théorie, sans une base théorique que Nouget a apportée par la suite. À un moment, Maisens a voulu créer une sorte de revue qui s'appellerait Période. Et il a sorti un tract sur lequel figuraient les noms de Marcel Lecomte, de Camille Goumans, de Maisens et de Magritte. Paul Nouget, qui était seul à ce moment-là, de son côté, a saisi l'occasion de ce tract pour faire un contre-tract de cette même revue Période pour débaucher Camille Goumans, Marcel Lecomte, à son profit. Et à ce moment-là, avec donc Nouget, Goumans et Lecomte, ils ont formé ce qu'on appelle le groupe Correspondance.
Paul Nouget, Marcel Lecomte et Camille Goumans du groupe Correspondance sont finalement rejoints par René Magritte, Édouard Maisens, André Souris et Louise Kuttner. Écrivains, poètes, plasticiens, musiciens, ensemble, ils forment le premier groupe surréaliste belge en 1926. Écoutez les explications de René Magritte.
Qu'est-ce que c'était que cette société, que ce groupe ? Assez étonnant.
Mais nous étions quelques amis. Il y avait Maisens, Paul Nouget, Lecomte, Souris, Skutner. Et nous pensions de même, enfin, relativement à la société, à la grande société, nous pouvions paraître un peu secrets et on pourrait nous appeler des amis du mystère.
Vous vous épauliez en quelque sorte devant l'adversité ou...
Ce n'est pas s'épauler, mais se comprendre. Nous comprenions et nous recherchions tous, enfin, ce qu'on pouvait dire qui soit inconnu encore.
Est-ce que vous compreniez, par exemple, avec les surréalistes de Paris, avec le groupe de Paris, quelles étaient vos relations ?
Mais elles étaient nécessairement très bonnes, puisque nous avions les mêmes préoccupations qu'eux. Seulement, étant donné leur nombre, ils ne pouvaient faire d'autres manifestations que nous. Ils avaient d'autres moyens que nous pour implanter cette idée du surréalisme.
Les idées étaient semblables ?
Oui, dans l'ensemble.
Le caractère était peut-être différent.
Seulement, eux aimaient assez la provocation pour elle-même. C'est en cela qu'il y a peut-être qu'il y aurait une différence.
Après sa première exposition à la galerie Le Centaure à Bruxelles en 1927, René Magritte s'installe près de Paris, à Perreux-sur-Marne, avec Georgette. Il se rapproche des surréalistes français, André Breton en tête. Il refuse toutefois de vivre au cœur de la capitale française. Les explications de Didier Ottinger, conservateur du Musée national d'art moderne de Paris en 1999.
Si Magritte est venu au Perreux-sur-Marne et pas à Paris, c'est qu'à Paris, on ne lui proposait pour résider que des ateliers d'artistes. Il avait la possibilité, il avait les contacts suffisants pour trouver un atelier d'artistes à Paris. Ça ne l'intéressait absolument pas, parce que ça aurait été vivre bohème, ça aurait été vivre comme un artiste. Et Magritte, ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'a jamais eu d'atelier, il n'a jamais eu les mains sales de la peinture. Dans la peinture, c'est quelqu'un qui travaillait, vous le savez, sur un petit bout de moquette dans le salon, très bien rangé. C'est quelqu'un qui avait horreur de tout ce qui pouvait ressembler à une attitude un peu débraillée, une attitude un peu bohème. Donc un personnage très ambigu.
Alors on sait bien sûr aujourd'hui ce qu'est le surréalisme, mais à l'époque, comment est-ce que ce mouvement était compris ?
Compris comme un mouvement extrêmement subversif. On est encore dans la période qui correspond au début du surréalisme. Le surréalisme est fondé officiellement en 1924 avec le manifeste d'André Breton, le premier manifeste du surréalisme. Et ce mouvement est encore assez imprégné par toute l'énergie et par toute la subversion qui est celle du dadaïsme.
Est-ce que Magritte était lui-même surréaliste dans sa vie, dans son comportement?
Oh oui, là je pense que vous en trouverez des échos à tout moment de sa carrière. C'est quelqu'un qui était surréaliste, mais un surréalisme un peu inattendu, si l'on veut. Pas un surréalisme provoquant et ostentatoire à la façon de Dali. Son surréalisme est beaucoup plus subtil. C'est un surréalisme de déplacement subreptice. C'est un surréalisme qui joue sur l'ambiguïté qui peut exister entre une apparence tout à fait polissée et bourgeoise et un comportement d'une excentricité inframince, comme dirait Marcel Duchamp, qui est quelqu'un qui a toujours fasciné Magritte. Donc un surréalisme très subtil, très délicat. Il faut vraiment le regarder de près pour se rendre compte qu'il y a là un dérapage. Et on se rend compte aussi que ce dérapage est beaucoup plus efficace que s'il s'opère au nom de grandes gesticulations, de grands cris.
C'est pendant leur séjour à Paris que les Magritte font la connaissance de Salvador Dali. En 1928, ils décident de partir ensemble en vacances à Cadaqués, chez les parents du peintre catalan. Georgette Magritte raconte.
Comme on avait connu Dali à Paris, comme nous habitions Paris à ce moment-là, et qu'on rencontrait souvent Dali chez Goubens aussi, alors, et on avait décidé d'aller passer des vacances là, et il lui est venu nous rejoindre après. Nous sommes restés là 5 semaines, et il lui est venu nous retrouver avec Gala, donc, qui était sa femme à ce moment-là, et ils sont restés, je ne sais plus, 8 jours peut-être. Mais puis ils sont repartis, eux, nous sommes restés encore.
C'était le début de cette aventure, de ce grand amour entre Gala et Dali?
Oui, c'était tout à fait le départ, en fait.
Vous étiez témoin de tout ça?
Oui, bah oui. Mais vous savez, Éluard était un homme excessivement agréable, hein? Très gentil, très doux. Et Gala était, je sais pas, sans doute qu'elle est tombée amoureuse de... Pour quitter Éluard pour Dali, c'est que... Parce que Dali était plus jeune quand même, plus jeune qu'elle. Et Dali n'était pas... Son comportement n'était pas ce qu'il est devenu. Il était aussi un garçon assez calme.
Ah bon?
Ah oui, il était très différent. Très, très différent.
Vous l'avez revu longtemps, enfin vous avez continué à le voir?
Non, c'est-à-dire que tant que nous étions à Paris, on l'a vu quelquefois. Mais non, nous l'avons revu maintenant, il y a, en 65, à New York, où il est venu naturellement pour se faire photographier avec mon mari et moi dans l'exposition. Et puis, on l'a revu à son hôtel, mais il était plus... Il avait beaucoup changé, hein. Pour mon mari, ça n'était plus ce qu'il aimait en Dali. Alors, ça ne l'intéressait plus. Et Dali, de son côté, vivait ailleurs.
Dali gardera toujours une réelle admiration pour Magritte, qu'il a connue par l'intermédiaire de Camille Goumans, membre du groupe surréaliste belge. Dali le confirme au micro de Selim Sasson en 1962.
C'est un Belge, Camille Goumans, qui aurait été votre premier marchand à Paris.
C'est exact. Oui, en plus, c'était pas, à mon point de vue... Marchand, il était marchand entre autres choses, mais c'est surtout un très grand poète et l'ami d'un autre très grand poète, que c'est René Magritte, que c'est un des peintres que j'estime le plus. Magritte, il est très près des idées géniales. Dans son œuvre, il y a au moins 4 idées qui sont réellement géniales et très proches de moi. Par exemple, son invention d'une chose qu'il appelait confiture de cheval.
La confiture de cheval, un dessin réalisé par Magritte en 1945. Mais revenons à Paris à la fin des années 20. Magritte perd ses contrats avec les galeries qui le soutiennent dans la capitale française. Quant aux relations avec les surréalistes français, elles se sont considérablement refroidies, pour ne pas dire dégradées. Les Magritte rentrent en Belgique en 1930 avec peu de moyens. Pour gagner sa vie, René se voit contraint de développer des activités de dessinateur publicitaire. Il confie la commercialisation de ses toiles à Édouard Meissens.
Il a quand même été très reconnaissant aux gens qui ont reconnu ses mérites, reconnu son talent dès le début. parce qu'il y avait quand même pas mal de hargne, de... Il était la risée de pas mal de gens.
Mais oui, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi il faisait des tableaux qu'ils voyaient.
Georgette Magritte.
Il disait, mais c'est un fou, il ne sait pas, il ne sait pas dessiner, ou on ne sait, il ne sait pas ce qu'il fait. Il était tout à fait incompris, bien sûr.
Et il en souffrait?
Ben, pas du tout. Mais les gens n'étaient pas habitués autrefois à se... avoir donc l'habitude de voir autrement les dérangeait. Alors il avait de très mauvaises critiques, on ne comprenait pas. Mais ça ne le gênait pas, hein. Il a toujours continué dans sa même ligne pendant toute sa vie et il riait quand... quand il lisait une critique qui n'était pas bonne, ben, il laissait.
À cette époque, Magritte poursuit ses recherches artistiques sur le décalage entre l'objet et sa représentation. Avec sa peinture, il entend interroger les mots dans leur fonction d'identification et d'interprétation. Une réflexion entamée quelques années plus tôt, notamment avec un de ses tableaux les plus célèbres, La trahison des images.
La trahison des images, c'est le titre d'un tableau représentant une pipe et sous laquelle se trouve une inscription. Ceci n'est pas une pipe. Moi, je ne vois rien de paradoxal dans cette image, car l'image d'une pipe n'est pas une pipe. Il y a une différence. Peut-être, ça pourrait-il paraître simpliste, mais néanmoins, ça cause un choc aux personnes qui...